R22, tout le monde. Antenne polychrome.
Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Polychrome, donc c'est une association qui est rattachée à l'École du Louvre depuis 5 ans et qui se distingue par l'organisation de 3 types d'événements, donc des projections de films, des visites d'exposition et des conférences. Il y a aussi des partenariats avec des festivals de cinéma et des soirées parisiennes. Donc, ces centres d'intérêt donc, tournent principalement autour des représentations des corps, des désirs et des genres. Le 17 juin, il y aura un pique-nique pour terminer l'année donc, devant l'école. Donc, vous pourrez venir nous voir pour nous donner vos avis sur l'année passée et puis sur vos envies pour l'année future notamment. Donc je tiens à remercier Florian d'être venu ici ce soir pour sa conférence « Politique des représentations et des sensations sexuelles, épistémologie des porn studies ». Florian est doctorant en sociologie à l'IRIS EHESS et est enseignant à l'UFR Culture et Communication de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il mène en ce moment une thèse qui s'intitule « Usages sociaux de la vidéo pornographique en ligne et production des masculinités ». C'est un travail qui interroge les dynamiques de genre à l'œuvre dans les pratiques de réception de la pornographie audiovisuelle par les spectateurs gays, bisexuels et hétérosexuels masculins. Voilà, bonne conférence.
Oui, je vais faire passer un livre aussi, c'est le livre dont on a parlé.
Alors, bah merci Florian, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes, et merci à l'association Polychrome donc, de me permettre d'intervenir face à vous et ensuite d'échanger avec vous sur donc, l'épistémologie des porn studies. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi donc d'intituler cette conférence « Épistémologie des porn studies », c'est parce que je vais vous présenter ce courant de recherche sous l'angle du mode de production de connaissances qu'il propose, la manière dont il propose de connaître les images porno, mais plus largement les représentations sexuelles, donc de produire des connaissances sur les représentations sexuelles, mais aussi avec et à travers les représentations sexuelles, parce que les porn studies, elles considèrent le porno et les autres représentations sexuelles comme des formes de connaissance. Alors, un peu bizarrement, on ne va pas parler tant que ça, ou si directement de ça, de pornographie. Et je vais surtout insister sur le fait que les porn studies sont intéressantes au-delà de l'objet pornographie, excusez-moi, mais sont intéressantes plus généralement par la manière dont elles renouvellent l'analyse féministe des représentations sexuelles. Donc c'est tout un tas de représentations sexuelles très très diverses et variées dont je vais vous parler ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro, ça va ? Oui, c'est ce qui me semblait aussi. Alors, il faut que je parle plus loin, peut-être, comme ça, à une distance. Je vais faire un nouvel essai à cette distance-là. Je referai un check avec vous dans quelques minutes. Alors, tout d'abord, un mot donc sur l'image que j'ai choisie en accord avec Florian pour illustrer cette conférence. Donc, c'est l'actrice Anna Held, qui est une actrice de Broadway, qui a connu un certain succès au début du XXe siècle, et là qui pose pour faire la publicité du mutoscope. Alors, le mutoscope, hein, c'est un des premiers dispositifs cinématographiques qui permet un visionnage individuel. Et pour visionner, la plupart du temps, on doit insérer les pièces dans les fentes du mutoscope. Donc, c'est une sorte de préfiguration de la cabine de sex shop. Et c'est l'objet avec la carte postale, à travers lequel la représentation sexuelle, ça va devenir une culture de masse à la fin du 19e siècle, et notamment les femmes et les classes populaires vont accéder, enfin vont devenir des consommateurs et des consommatrices sexuelles à travers cet objet. Alors, la conférence que je vous propose ce soir, elle va être composée de 4 temps. D'abord, je vais revenir sur ce que Fiona Atwood a appelé un changement de paradigme dans l'étude des représentations sexuelles. Donc, je vous présentais de manière assez générale la démarche des porn studies et aussi quelques éléments de leur généalogie. Ensuite, la conférence, elle va se centrer autour de deux thèmes. Un premier thème, ça va être celui du regard masculin, de la fétichisation des corps féminins et de la critique féministe. Un deuxième thème, ça va être celui du regard blanc, de la fétichisation des corps noirs et de la critique postcoloniale. Donc comment les porn studies sont intervenus dans la critique féministe et la critique postcoloniale des images. Et enfin, je vous proposerai des réflexions conclusives sur le type de critique sociale que proposent les porn studies, et notamment la manière dont elles renouvellent la compréhension du rôle des affects, c'est-à-dire du plaisir, du dégoût, de la colère, dans l'analyse des images. Alors, le terme porn studies, il apparaît dans les années 90, et il se popularise dans les années 2000. Hein, là, je vous ai mis deux images de deux moments, on va dire, de pérennisation du mot. Hein, un ouvrage collectif dirigé par Linda Williams, dont on va beaucoup parler ce soir, en 2004, et la revue Porn Studies, donc publiée par les éditions Routledge depuis 2014, et dirigée par Fiona Atwood et Clarissa Smith. Mais donc si le mot, on va dire, se stabilise dans les années 90 et 2000, la démarche des porn studies, elle émerge dans les années 80, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, dans un contexte de débat féministe, mais pas seulement féministe, et de conflit entre mouvements anti-pornographie, donc qui cherchent à renforcer la censure de la pornographie, et mouvements anti-censure. Alors dans ce contexte, tendu, on peut dire, en mars 85, la revue Jump Cut, qui est une des principales revues de théorie culturelle anglophone, elle consacre un numéro spécial aux perspectives féministes sur la pornographie. Toutes les archives de cette revue sont disponibles en ligne. Est-ce que je parle plus ou moins à la bonne distance du micro maintenant ? Ou un peu trop près encore, non ? Les avis sont mitigés. Mais... je vais maintenir plus ou moins cette distance-là. Et donc en mars 85, dans la revue Jump Cut, il y a notamment Richard Dyer, qui est un spécialiste du cinéma et de la représentation notamment de l'homosexualité, de la blanchité, de la masculinité au cinéma, des questions, on va dire, féministes et antiracistes dans le cinéma, qui propose une intervention qui va devenir un des actes fondateurs des porn studies. Alors, Richard Dyer, il se présente dans cet article comme un universitaire et militant gay socialiste, au sens anglais, c'est-à-dire plutôt communiste, qui se place du côté des variantes les plus féministes du militantisme gay. Et il va proposer la défense suivante du porno et de son étude. Alors, ce texte a été traduit par Fred Payet, donc dans cette anthologie dont vous parlait Florian tout à l'heure. Alors, Richard d'ailleurs propose la défense suivante. Une défense du porno comme genre filmique, ce qui, j'insiste, n'est absolument pas la même chose que de défendre tous les pornos, pourrait se baser sur l'idée qu'un art impliquant des effets corporels peut nous donner une connaissance du corps que d'autres arts ne peuvent pas nous donner. Alors, j'ai mis en illustration, en accompagnement, on va dire, le film dont parle, un des films dont parle Richard Dyer dans cet article, qui est donc Muscle Beach, un film porno gay autour du culturisme californien et de la culture de la plage. Alors, il continue, un peu plus loin dans le texte. J'opterai pour ma part pour une conceptualisation plus large des représentations sexuelles, tout en continuant à parler de pornographie, en jouant sur la mauvaise réputation et les connotations charnelles du terme. Peut-être que le débat féministe m'interdirait un tel usage du mot, mais je tiens à ne pas tomber dans le piège qui reviendrait à le remplacer par érotisme. Alors, une des interventions proposées par les Pan Studies, c'est de fusionner trois rôles qui jusque-là étaient perçus comme incompatibles, le rôle de spectateur, de spectatrice de porno ou de passionné, de fan de porno, le rôle d'universitaire et le rôle de féministe. Donc la démarche des Porn Studies, c'est de produire des connaissances sur les images simultanément depuis ces trois positions, donc avec un engagement avec les images, qui est à la fois un engagement politique, un engagement corporel, sensoriel. Mais les Porn Studies, c'est pas seulement une affaire, on va dire, de fans de porno, c'est, comme l'indique Richard Dyer, c'est aussi un usage stratégique du mot porno, et des objets pornographiques. C'est-à-dire que, étant donné que les objets qualifiés, catégorisés de porno ont été exclus des différentes disciplines des sciences humaines et sociales, réinvestir le mot porno et replacer remettre sur le devant de la scène les objets porno, ça produit des choses qui sont intéressantes. Linda Williams, une autre instigatrice des Porn Studies, souligne que l'obscène, qui se stabilise au même moment que le mot porno, enfin pornographie, désigne simultanément ce qui est grossier, vulgaire, qui a trait aux excréments, et ce qui doit être placé hors de la scène de la représentation publique. Elle joue sur à la fois le latin obscenus et obscena, en dehors de la scène. Et donc la démarche des Porn Studies, l'indiscipline des Porn Studies, c'est donc de remettre ces images vulgaires et dégoûtantes au centre de la discussion. Alors pour saisir l'épistémologie des Porn Studies, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a eu avant et ce à quoi elles s'opposent. D'abord, les Porn Studies, elles proposent d'en finir avec une figure qui s'impose au XIXe siècle et qui est celle de l'homme de science, qui va s'arroger le monopole de la production de connaissances sur les images porno. Alors, à ce titre, la généalogie du mot porno, elle est intéressante, parce qu'au début, ça désigne pas du tout, en fait, des objets ou des représentations destinées à la stimulation sexuelle. Au début, pornographie, ça désigne les traités de santé publique hygiénistes, donc orientés vers le contrôle social, où ce sont donc des hommes de la bourgeoisie européenne, des différentes bourgeoisies européennes, qui vont étudier la prostitution, les mœurs des travailleuses du sexe, et qui vont aussi réfléchir à la manière, je cite, c'est une expression de Alexandre Parent du Châtelet, qui est le principal représentant français de ce courant-là, qui vont réfléchir à la manière de ne pas être souillé par cette activité de recherche auprès des travailleuses du sexe. Donc il y a tout un effort de mise à distance de l'objet. Et cet effort de mise à distance, donc là on est au XVIIIe siècle, il va se retrouver il va se perpétuer au XIXe siècle, 19e siècle, donc, qui est le siècle de l'invention de la censure moderne, de la pornographie et de la stabilisation de cette catégorie. Et alors un moment décisif, qui a notamment été documenté par l'historien Walter Kendrick, dans son ouvrage Le Musée Secret, c'est le moment de l'exhumation des ruines de Pompéi. Donc quand il y a toute une série d'objets, de fresques qui sortent des ruines de Pompéi et qu'il faut exposer dans des musées ou qu'il faut documenter dans des ouvrages d'histoire de l'art. Et il y a des objets qui posent problème, qu'on va catégoriser comme pornographiques, parce qu'ils ils blessent la sensibilité des archéologues ou des historiens de l'art, et ils lui délivrent un traitement spécifique. Alors par exemple, Louis Barret, qui est un historien de l'art français, et qui a proposé une description des ruines de Pompéi en 8 volumes, où il consacre le huitième volume, justement celui du musée secret, qui correspond aussi à une salle hein, dans le musée à Naples qui expose ces objets. Et il va placer deux conditions à la publication et à la circulation de son ouvrage. Tout d'abord, il va insister sur le fait que ce type de publication doit être placé hors de portée des, je cite, des hommes sans éducation, des femmes et des enfants, afin que soient préservées les lois de la décence et de la modestie. Première condition. Deuxième condition, il faut que l'historien de l'art, donc qui ne peut donc qu'être un homme adulte de la bourgeoisie, lorsque confronté aux attributs obscènes, des statues de Priape par exemple, se doit de manipuler ces objets, je cite, comme un anatomiste contemple des cadavres, sans rougeur ni sourire. Donc les historiens de l'art iront même jusqu'à mettre en place un protocole scientifique qui leur interdisait de manipuler certains objets seuls. Il fallait que ce soit qu'il y ait un contrôle social voilà, pour maintenir cette promesse de ne pas rougir et de ne pas sourire. Alors, ce qui se sédimente à ce moment-là, et nous sommes malheureusement les héritiers et les héritières, c'est une opposition entre l'esprit et le corps, entre la raison et l'émotion, et entre un « nous » scientifique, ou un « nous » qui censure, et qui s'oppose à des publics vulnérables, et qui sont censés ne pas être en contrôle de leur propre corps, et qui doivent donc être placés sous la tutelle de ces hommes de science qui savent ce qui est bon, ce que les autres publics vulnérables peuvent ou non voir. Alors, en continuant cette course folle un peu à travers l'histoire, on va passer du 17e, 18e, non, au 20e siècle, aux années 70. Je passe vite parce que c'est pas le cœur de ma présentation, mais c'est plus enfin, la toile de fond. Les pan studies s'opposent aussi au féminisme anti-porno. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus, parce que je pense que c'est le reste de ma présentation en fait, qui va fournir des éléments d'explicitation de ce qu'apportent les pan studies de plus par rapport aux analyses féministes anti-porno. Pour résumer, de manière forcément un peu arbitraire, en deux phrases, le type d'analyse proposé par le féminisme anti-porno, c'est que la pornographie, en général, et que ce soit la production, donc ces pratiques de production, ces images, ces représentations, ou ces pratiques de réception, les trois niveaux sont rarement dissociés en fait, dans le féminisme anti-pornographie. Donc la pornographie, ce phénomène, participe de manière univoque au contrôle masculin de la sexualité des femmes. Donc, on va voir comment les pan studies partent de cette idée hein, du contrôle masculin et vont la retravailler d'une manière un peu différente. Donc les pan studies, elles émergent dans les années 80, hein, comme je le disais, dans un moment où il y a depuis 5-10 ans un mouvement anti-pornographie, un mouvement féministe anti-pornographie qui s'est constitué dans la lignée du mouvement des violences faites aux femmes ou des luttes contre les représentations sexistes dans les médias. C'est une excroissance, on va dire, de ces mouvements des années 70 qui devient le mouvement anti-pornographie dans les années 80. Et les parents se disent, leur condition de possibilité, on va dire, c'est d'une part l'effervescence politique contre-culturelle qui se développe autour du mouvement anti-censure et qui donnera lieu notamment à homo, féminisme pro-sexe, queer, au mouvement des travailleuses et des travailleurs du sexe. Donc il y a toute une effervescence politique d'une part, dans un contexte de backlash conservateur et néolibéral, parce que c'est les années Thatcher et c'est l'année Reagan en Angleterre et aux États-Unis. C'est aussi les années SIDA, on en parlera dans la deuxième partie de la conférence. Et alors les conditions de possibilité plus intellectuelle, c'est ensuite le développement de recherches féministes au sein des cultural studies qui interrogent des objets de la culture populaire, hein, comme le roman Harlequin, comme le magazine féminin de jeunes adolescentes, comme les soap opéras. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est une démarche d'analyse féministe qui va poser les mêmes questions à des objets culturels légitimes et moins légitimes. Et ensuite, c'est aussi un moment où les écrits de Michel Foucault, et notamment le premier tome de La volonté de savoir, va faire l'objet de relectures féministes et postcoloniales, où on va notamment questionner les régimes de vérité sur le sexe et sur la race. Donc ça, c'est un peu la toile de fond politique et intellectuelle des deux démarches que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de me faire le médiateur de deux pensées très sophistiquées, qui sont celles de Linda Williams et de Cobbena Mercer. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'analyse qu'a faite Linda Williams donc dans l'ouvrage Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, où elle s'est notamment intéressée à la photographie scientifique sportive d'Edward Muybridge et à la photographie de l'hystérie de Jean-Martin Charcot. Et ensuite, je vous parlerai donc de Cobbena Mercer, qui, lui, a proposé une analyse fondatrice des nus noirs masculins de Robert Mapplethorpe, enfin, notamment des photographies qu'on a eues dans le Black Book de Robert Mapplethorpe. Alors, j'ai choisi de vous parler de ces deux textes parce que ce sont des interventions importantes dans le débat sur la représentation pornographique du sexe et de la race. Donc, la question qu'on va se poser en discutant de ces deux approches, c'est celle du rapport, enfin du lien entre des rapports de vision, le fait de voir ou d'être vu, ou la question de l'organisation sociale du regard, et les rapports sociaux, c'est-à-dire l'organisation sociale plus générale. Ce qu'ont en commun Cobbena Mercer et Linda Williams, c'est de considérer l'expérience de vision, de voir et de ressentir les images comme des expériences transformatrices, et ces deux auteurs ont en commun de considérer la force affective, les intensités sensorielles qui traversent le rapport aux images, comme des moments qui comptent dans la formation des rapports de pouvoir. Donc ces deux textes, hein, qui sont également reproduits dans l'anthologie des Porn Studies, ont aussi en commun penser avec et contre la psychanalyse. Parce qu'en fait, quand on s'engageait dans un travail critique, et notamment féministe, avec les images, dans les années 70, c'était très difficile de ne pas instaurer une conversation avec la psychanalyse. Et notamment la question des rapports de vision et la construction de la masculinité et de la féminité dans le porno était très largement envisagée dans les années 70 et 80 à travers le concept de male gaze. Alors le concept de male gaze, c'est un concept qu'a notamment théorisé la théoricienne et réalisatrice britannique féministe Laura Mulvey dans un article de 75 Plaisir visuel et cinéma narratif, hein, qui a été partiellement traduit en français dans la revue Cinémaction. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ce male gaze, parce que c'est important pour ce qui suit. Alors, déjà, il faut prendre en compte que Laura Mulvey, elle travaille sur un corpus particulier, elle s'intéresse à la représentation des femmes dans le cinéma hollywoodien classique, c'est-à-dire des années 30 aux années 60, enfin, aux années 50, et qui est caractérisée par des rapports de genre très rigides. Et à travers ce concept de male gaze, elle va s'intéresser à la manière dont le cinéma produit une position de spectateur masculinisée. Alors, à travers deux mouvements, le premier mouvement, c'est celui de la scopophilie, où le spectateur est invité à déployer un regard fixe, c'est le gaze, et insistant sur des corps féminins fétichisés. Deuxième dynamique, qui est complémentaire, c'est celle du narcissisme, à travers lequel le spectateur est invité à se reconnaître dans les personnages masculins. Donc un homme, selon Laura Mulvey, quand il s'assoit au cinéma, est le spectateur invité, parce que c'est celui pour qui le texte cinématographique a été pensé. Alors, Linda Williams et Eco Bonham Mercer vont partir de cette approche féministe du cinéma, et notamment de la relecture que propose Laura Mulvey de la théorie freudienne du fétichisme, comme un effort masculin pour dominer la différence sexuelle des femmes, pour penser la pornographie. Alors, le fétichisme, tel que l'entend Laura Mulvey, pour le dire de manière simple, c'est l'opération, donc c'est ce scénario oedipien à travers lequel il y a le petit garçon qui voit sa mère nue et qui remarque l'absence du phallus. Et le fétichisme, ça va être quelque chose pour maîtriser ce trouble de l'absence du phallus, et qui va passer soit par des accessoires féminins, soit par le corps lui-même des femmes qui va être fétichisé. Et pour maîtriser donc cette expérience masculine de la différence sexuelle des femmes. Et alors, Laura Mulvey a transposé cette idée au cinéma classique hollywoodien pour réfléchir à la construction d'icônes féminines rassurantes. Alors, le problème avec cette théorie, avec laquelle on était obligé en fait d'interagir si on voulait faire une analyse féministe du cinéma porno, c'est, comme le dit Williams, que le cinéma en fait c'est une espèce de remake perpétuel du scénario oedipien, et qui est voué à se répéter de manière indéfinie. Et ce que Williams va introduire dans son analyse de la pornographie, c'est l'histoire et c'est la contingence, c'est-à-dire que le regard masculin dont elle va faire la généalogie, elle va insister sur le fait qu'il est produit d'une histoire spécifique, d'une histoire technique et idéologique spécifique, et qu'il est dépassable. Alors, voici la manière dont Linda Williams, elle revient dans l'introduction de Hardcore sur son rapport à ce contexte intellectuel des années 80, qui était donc dominé par le concept de male gaze. Donc elle décrit sa première approche de l'objet pornographie. Je me disais que, dans le cas de la pornographie, l'analyse isotextuelle, l'historicisation des conventions génériques, ne poserait aucun problème. Les significations en jeu s'annonçaient évidentes. Comme chacun sait, si vous en avez vu un, vous les avez tous vus. La pornographie ne pouvait que faire l'étalage, de manière littérale et extrême, de tout ce que les critiques féministes du cinéma avaient déjà démontré concernant le cinéma hollywoodien classique. Voyeurisme du corps féminin, voyeurisme à l'état pur, femme punie pour être aussi sexuelle que les hommes, fétichisme du corps féminin qui fournit un cas d'école pour une analyse freudienne, le film pornographique était voué à illustrer une objectification totale du corps filmique féminin, réduit à l'état d'objet du désir masculin. J'avais tort. J'ai vu beaucoup de films issus de différents moments de l'histoire du genre pornographique, et me suis rendu compte que l'on ne peut pas monter en généralité à partir d'un ou deux films, et que le film pornographique n'illustre pas l'objectification aussi facilement qu'on veut bien le croire. Je me suis en fait rendu compte que ces textes prétendument évidents étaient en fait saturés de contradictions. La plus importante est la difficulté des films hardcore à proposer un savoir visuel de l'orgasme féminin. Bien que le genre dans son ensemble semble ému par la quête de la preuve visuelle irréfutable du plaisir sexuel en général et du plaisir féminin en particulier, ceci est précisément ce que le hardcore ne parvient jamais à garantir. Alors, ému, ce qui peut paraître un peu étrange, en fait, c'est un jeu de mots de l'anglais, donc dans le texte original, c'est moved, et donc moved qui est à la fois être ému et aussi être mis en mouvement. Donc, c'est l'idée que la pornographie fonctionne par la mise en mouvement des corps, à la fois par la mise en mouvement du corps des acteurs et des actrices, et qui invite à la mise en mouvement du corps des spectateurs et des spectatrices. Hein, c'est une idée. Que Linda Williams développe notamment à travers le concept de genre filmique corporel, un de ces genres filmiques, le porno, mais aussi le film d'horreur ou le mélo, où l'activité corporelle du public, soit par les larmes, par le plaisir, par l'effroi, est centrale. Alors, ah oui, j'ai oublié de passer à la diapositive, je suis désolé. Alors, en fait, Linda Williams, dans sa généalogie donc du regard pornographique masculin, elle va insister sur le fait qu'elle fait avant tout l'histoire d'un échec plutôt que l'histoire d'une réussite dans le contrôle patriarcal de la sexualité des femmes. Elle va faire l'histoire en fait d'une fuite en avant, d'une quête perpétuelle de la vérité visuelle de l'orgasme féminin. Alors, elle va insister sur la spécificité technique et idéologique du XIXe siècle à travers deux concepts. Tout d'abord, l'idée empruntée à Michel Foucault qu'au XIXe siècle, la sexualité elle devient de plus en plus une histoire de vérité. Donc, c'est d'abord liée au développement d'une science de la sexualité, mais aussi le rapport ordinaire, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, devient aussi une question de vérité, de rapport à ses sensations, à son corps, à ses fantasmes. C'est ce qu'il appelle la scientia sexualis, notamment, le développement d'une scientia sexualis, c'est-à-dire d'une herméneutique du désir orientée vers l'exploration toujours plus détaillée des vérités scientifiques de la sexualité. Alors, cette réflexion, Williams va la croiser avec celle de Jean-Louis Comolli sur les machines du visible. Donc, sur l'idée qu'au XIXe siècle, il y a une prolifération de technologies qui vont intensifier l'expérience de la vision et qui vont ouvrir à des expériences de vision humaine augmentées, à voir des vérités qui étaient jusque-là inaccessibles à l'œil nu. Et avec notamment un intérêt pour le mouvement du corps et pour des mouvements qui auparavant étaient inaccessibles à l'œil humain et qui deviennent désormais accessibles grâce à différentes prothèses visuelles techniques. Alors, la rencontre entre ces machines du visible et cette volonté de savoir sur la sexualité, Linda Williams, elle va en parler de plusieurs manières différentes. Elle va notamment décrire un principe de visibilité maximale, donc cette idée que dans la pornographie, il faut que les organes génitaux et les événements génitaux soient visibles, donc ça implique certaines postures, un certain cadrage, un certain éclairage très particulier qui donne accès à la vérité de l'acte sexuel sans censure ni trucage. Elle va aussi insister sur les nouvelles formes d'intensité sensorielle que cela produit, que cette rencontre technique idéologique produit, en parlant d'une nouvelle densité charnelle de la vision et d'une frénésie du visible. Alors, dans cette quête... elle ironise un peu sur cette quête des origines. Elle dit qu'évidemment, toute quête des origines produit un récit mythologique. Mais elle va s'intéresser, malgré tout, à l'origine du regard pornographique masculin. Et en fait, cette origine, elle ne va pas les trouver dans les premiers films porno. Donc les premiers films porno, on considère classiquement que ce sont des films des premières décennies du XXe siècle tournés dans des maisons closes. Mais en fait, elle va les trouver dans l'invention même du cinéma, ou un des moments d'invention du cinéma, qui est notamment le zoopraxiscope, on va parler dans un instant, de Muybridge. Alors, il y a tout un débat autour du rôle de Muybridge dans l'invention du cinéma, de son rôle controversé, sur lequel Linda Williams revient de manière assez détaillée, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on va voir comment dans cette invention du cinéma se joue un moment clé en fait pour l'histoire du hardcore cinématographique. Alors, dans cette histoire, Linda Williams, elle va mettre sur un même plan Freud, Charcot et Muybridge comme trois hommes qui avaient la volonté de découvrir le continent noir de la sexualité féminine, mais qui en fait l'ont activement construite en prétendant la découvrir, chacun avec sa technique différente, que ce soit la psychanalyse, l'hystérie ou la photographie de sport. Donc, Muybridge, c'est un photographe sportif, scientifique, de la deuxième moitié du 19e siècle. Et l'histoire commence donc au début des années 1870, quand, avec son ami, donc c'est visiblement une histoire de camaraderie masculine, Leland Stanford, qui était un ex-gouverneur de Californie, et qui était passionné de cheval et de course, il se pose la question, ou il se lance un pari. Et l'objet du pari, c'est est-ce que, quand le cheval est au trot, est-ce qu'il y a un moment où les quatre sabots quittent le sol ? Donc ça, c'est une question à laquelle... Je suis pas très fort en équitation, il y a une histoire de trot et de galop qui m'échappe ici, voilà. Donc effectivement, c'est visiblement une photo de galop, on me dit. Donc je vous laisse... Je suis désolé pour le flou entre le trot et le galop. Parce que je me demande si c'est pas évident en fait qu'au galop les quatre sabots décollent et si le débat était spécifiquement sur le trot. Bon, l'histoire du porno en fait se croise avec l'histoire de l'équitation, mais voilà, de manière que je peux pas expliciter malheureusement. Et en fait, ce qui va intéresser Linda Williams dans ce pari sportif et cette camaraderie masculine, c'est que on va progressivement se rendre compte que la question « est-ce que les quatre sabots du cheval touchent le sol ou non ?» va progressivement être substituée par la question « à quel moment est-ce que la poitrine de la femme atteint son niveau le plus élevé dans une activité physique, sportive ou sexuelle ?» Alors vous allez voir ces différentes étapes qui permettent d'arriver d'une question à l'autre. D'une curiosité visuelle à l'autre. Alors après avoir pris toute une série en fait de photos fixes, il y a toute une série de péripéties au long des années 1870 qui vont donner lieu au début des années 1880 à ce type d'expérience cinématographique ou proto-cinématographique qui est donc le zoopraxiscope. Donc zoopraxiscope, c'est une technique d'enregistrement qui veut dire donc littéralement capturer la vie. Donc là, c'est la capture de la vie animale d'abord et de la vie humaine ensuite, qui va permettre en fait de reconstituer à travers une compilation des différents clichés du cheval occident, hein, c'est le nom du cheval, de Muybridge, qui va donc reproduire ce mouvement et le reproduire en fait de manière plus vraie que nature et en fait ouvrir à une expérience visuelle du trot inédite. Alors là, dans cette image, donc c'est pas un zoopraxiscope évidemment que vous avez sous les yeux, mais c'est un GIF. Et en fait, le GIF, c'est un peu l'héritier, on va dire, du zoopraxiscope, dans la mesure où il garde cette idée de capturer, d'une capture technique du geste qui compte, et qui permet à l'œil humain de capturer aussi cette vérité du geste. Alors la vérité au début, c'est de savoir si les quatre sabots donc décollent du sol, et on va voir qu'elle va se déplacer vers d'autres enjeux. Alors, la recherche de la vérité, Linda Williams insiste sur ce point, elle est indissociable de la quête du plaisir. Hein, dans cette histoire, les deux sont mêlés. Alors, ce plaisir, il va se transformer, il va s'intensifier, il va prendre une nouvelle tournure érotique lorsque, dans un projet suivant, à la fin des années 1880, en fait, qui va s'étendre jusqu'à la fin des années 1880. Et donc, à la fin de cette période, Muybridge va photographier des sujets humains, et pas seulement animaux. Et il va faire prendre des poses, en fait, assez différentes et assez genrées. Donc là, vous voyez, par exemple, une lutte entre deux hommes nus. Mais les femmes donc, qui posent pour Muybridge ne font pas donc, des sports de combat, un sport de combat qui par ailleurs excluait assez largement, de manière assez systématique, les femmes au XIXe siècle. Mais ça va être d'autres activités. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on a vue il y a une dizaine de minutes, mais la couverture qu'il y a sur Hardcore de Linda Williams, c'est une série d'images où il y a une femme qui fume sur une chaise et une autre qui vient la rejoindre et qui vient lui tenir le dossier. Ou sinon là c'est une photo avec, enfin c'est un enchaînement de photos où il y a une femme dans une bassine et qui se fait verser un pot d'eau dessus. Alors aussi, il y a beaucoup de photos de femmes qui sont dans des drapés blancs, donc qui vont souligner qui vont souligner leur forme en suggérant une forme d'érotisme. Aussi, quand les hommes et les femmes font les mêmes mouvements, en fait, Muybridge demande visiblement aux femmes de rajouter des mouvements. Donc elles vont par exemple se tenir à la poitrine ou mettre une main comme ça devant leur bouche. Donc il y a tout un tas de mouvements supplémentaires qui vont être rajoutés. Et ce que note Linda Williams, c'est qu'il y a un approfondissement du lien entre volonté de savoir scientifique, érotisation. Et à travers donc, ces conférences, hein, c'est une conférence un peu comme celle-ci que Muybridge faisait à travers l'Amérique. Il dit que c'était un cocktail très américain de science et de divertissement. Le public américain fait l'expérience d'une nouvelle expérience visuelle que Linda Williams décrit comme un mélange de voyeurisme et de fétichisme sur les corps des femmes qui vont devenir des perversions normalisées. Donc là, c'est juste perversion au sens d'un plaisir sexuel qui n'est pas orienté vers la reproduction et qui va être normalisé, c'est-à-dire que cette expérience du plaisir, du voyeurisme ou de la fétichisation des corps féminins va devenir en fait une expérience tout à fait commune et ordinaire dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle. Alors, Linda Williams, à la différence de la théorie du male gaze, hein, qui a un côté plus figé, elle insiste sur le fait qu'il n'y avait rien de nécessaire à ce que Muybridge fasse faire des choses plus frivoles, plus érotisées ou plus superficielles à ses sujets féminins. Et elle précise que si la représentation du corps des femmes s'est progressivement chargée d'une légèreté érotique, aux dépens de ses prétentions scientifiques plus sérieuses, ce n'est pas parce que les hommes seraient naturellement des voyeurs et des fétichistes, et que ces plaisirs pervers auraient pris le pas sur la science. Il y a plutôt une co-construction de la science et du plaisir à travers le discours cinématographique. Cela est en partie dû au fait que, parmi les spectateurs, qui étaient principalement des scientifiques et des sportifs, il n'y avait aucune femme en position de prendre la parole pour dire Ceci n'est pas la réalité de mon mouvement, c'est un modèle qui réalise le fantasme d'un artiste. » Ou « Montrez-moi un homme qui se touche, je veux en savoir plus sur lui et sur son monde. » Ces possibilités peuvent sembler fantaisistes, mais il faut les garder à l'esprit lorsqu'on utilise des concepts psychanalytiques pour expliquer les plaisirs qui semblent faire partie intégrante d'une technique. Alors, un second moment clé dans cette préhistoire du savoir pornographique moderne, c'est la photographie de l'hystérie de Jean-Martin Charcot. Donc là, on passe des États-Unis vers la France, mais on reste à la fin du 19e siècle. Alors, ce que le porno hard va hériter de Charcot, c'est le principe de la confession involontaire du plaisir féminin, confession involontaire qui va signer son authenticité. Donc l'idée d'une ou la volonté de capturer l'extase aux dépens des actrices trouve pour Williams son origine chez Charcot. Donc le rapport un peu compliqué, on va dire, de la pornographie hétérosexuelle androcentrée au consentement des femmes, pour Linda Williams, ce problème, on va dire, idéologique avec le consentement, il commence avec Charcot et il se joue en fait dans la photographie de l'hystérie de Charcot. Donc Charcot travaille notamment avec la méthode de l'hypnose pour un peu comme Bridge, pour mettre en spectacle une vérité scientifique qui est relative à l'hystérie. Hein, donc ce sont des conférences où des hommes de la bourgeoisie, donc des scientifiques et des politiciens assistent à ces performances de l'hystérie qui sont donc orchestrées par Jean-Martin Charcot et qui sont produites par des stimulus, alors soit sonores, soit visuels, et qui vont donc déclencher ces crises. Alors, ce que souligne Linda Williams, c'est que dans la description scientifique de ces crises, il y a une montée vers l'extase. Premièrement, donc, il y a une montée vers l'extase qui préfigure la montée vers l'orgasme. D'autre part, cette montée vers l'extase, elle est obtenue par la sollicitation, l'interrogation, le fait de sonder des corps féminins pour en découvrir des secrets qui ne peuvent se révéler que par la perte de contrôle. Donc perte de contrôle qui est provoquée par la méthode de l'hypnose et par la crise d'hystérie. Donc c'est par la perte de contrôle sur son propre corps que les femmes sont censées offrir à l'appareil photographique une confession qui va ensuite être capturée par l'appareil. Alors la difficulté pour Charcot, il le pense d'ailleurs en ces termes, c'est que la norme de comportement qui est, on va dire, l'injonction qui est faite aux femmes, c'est de se soucier de leur propre apparence. Dans la société française du 19e siècle, il faut que les femmes se soucient de leur apparence, notamment en public, devant un public d'hommes. Et donc tout le défi de Charcot, ça va être de briser ce souci de sa propre apparence pour arriver à une perte de contrôle, ou en tout cas une mise en scène de la perte de contrôle, et faire émerger cette vérité qu'est l'hystérie. Alors, donc le hardcore, le savoir pornographique moderne, donc qui est l'héritier de Charcot, il va fonctionner, nous dit Williams en citant Luce Irigaray, comme un spéculum à travers lequel en fait les hommes ne vont que voir la vérité de leur propre fantasme. C'est-à-dire que à la manière d'un spéculum qui reflèterait en fait dans lequel le médecin se verrait lui-même. Charcot et les pornographes masculins ne font que projeter sur des corps de femmes leurs propres fantasmes. Et cette quête de la vérité cachée de l'orgasme féminin est donc une quête perpétuelle qui est vouée à l'échec vu qu'ils ne font que se voir eux-mêmes ou voir leurs propres fantasmes. Donc à travers ce retour aux origines, donc par Charcot et Murray Bridge, Linda Williams insiste sur le fait que le regard masculin dans la pornographie, il est le produit d'une histoire technique et idéologique très spécifique, et qu'il est traversé par des contradictions internes. En fait, c'est pas une histoire de contrôle parfait, mécanique, du regard masculin sur des corps féminins. C'est une volonté de contrôle, mais qui est traversée par des contradictions internes. Donc elle apporte, ou elle pose le projecteur sur les contradictions internes qui traversent le regard masculin, plutôt que de présupposer sa toute-puissance. Donc voilà la manière dont Linda Williams intervient dans ce débat féministe des années 70 et 80 sur le regard masculin. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un second texte, qui est celui de Cobbena Mercer, donc lire le fétichisme racial, les photographies de Robert Mapplethorpe, et passer de la question du regard masculin à celle du regard blanc, et passer de la question de la fantasme de la maîtrise de la différence de sexe au fantasme de la maîtrise de la différence raciale. Alors, ce lien, je mets des images, je vous les expliquerai dans quelques instants. Ce lien, en fait, il est tracé par Cobbena Mercer lui-même, qui va utiliser les théories féministes et qui va les déplacer vers les questions raciales. Donc là, le continent noir, hein, cette métaphore coloniale va être prise au pied de la lettre, mais c'est plus l'orgasme féminin qui va intéresser Mapplethorpe, c'est plutôt le pénis noir et l'obsession, le plaisir, l'angoisse dont il fait l'objet dans le regard blanc. Alors, Ce texte de Cobbena Mercer, il a été écrit en trois fois, en fait, en 86, 89 et 94, parce que Cobbena Mercer va revenir plusieurs fois sur sa position, et dans la dernière qu'il propose, donc dans l'ouvrage Welcome to the Jungle, qui s'appelle Black Cultural Studies, le sous-titre, il va dire que finalement, en fait, il ne sait pas quoi en penser. Il va plutôt partager des incertitudes et des doutes concernant ces images. Alors, ce contexte des années 86-89, c'est bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, un contexte de controverse féministe. Mais c'est aussi, alors plus directement, concernant Mapplethorpe, hein, c'est aussi les dernières années de Mapplethorpe, hein, qui décède des suites du sida en 1989. C'est aussi le moment d'une offensive conservatrice généralisée contre le financement de l'art et de la culture, on va dire progressiste, aux États-Unis, mais plus spécifiquement contre les photographies de Mapplethorpe. Il y a plusieurs expositions à Philadelphie ou dans l'État de Washington qui vont être très controversées et certaines vont être interdites. Ces années-là aussi, c'est le moment de l'affirmation de toute une génération d'intellectuels et d'artistes gays noirs en Grande-Bretagne, dont Cobbena Mercer fait partie. D'autres membres de cette génération, c'est Isaac Julien ou Rotimi Fanny Caillaudet, dont je vous ai mis une photographie. On verra tout à l'heure comment cette photographie dialogue avec celle de Robert R. Mapplethorpe. Et en fait, c'est toute une génération qui va être, on va dire, interpellée par le travail de ce photographe gay blanc qui était Robert Mapplethorpe, et qui va proposer différentes interventions critiques vis-à-vis de son travail. Autre élément de ce contexte, c'est que en parallèle du débat en parallèle de l'émergence d'un mouvement féministe anti-pornographie, qui est surtout conduit par des femmes blanches, va émerger une réflexion féministe africaine-américaine aux États-Unis sur la représentation coloniale et postcoloniale de la sexualité des femmes noires. Alors, une histoire qui va être re-racontée, retravaillée énormément dans les années 80. C'est l'histoire de Saartje Bartman, dite la Vénus Otanto. Et donc Saartje Bartman, c'est une femme Khoï, donc qui est un peuple qui fait partie aujourd'hui de ce qui est devenu l'Afrique du Sud, qui, à la fin du XVIIIe siècle, va être enrôlée dans un projet à la fois scientifique et de divertissement, qui va l'amener à être exposée en fait dans des zoos humains entre Londres et Paris, et à participer à des événements qui sont à la fois des événements scientifiques et des événements de divertissement, où elle va notamment exposer face à un public blanc ses fesses et sa vulve, qui vont être décrites par les médecins de l'époque comme relevant de la stéatotypigie. Voilà. Donc c'est donc la stéatotypigie pour cette critique féministe africaine-américaine, ça va être l'équivalent pour Linda Williams de l'hystérie, c'est-à-dire que c'est le moment où se joue la naissance en fait du regard pornographique masculin blanc colonial sur le corps des femmes noires. Alors, il y a un débat très, très compliqué et très sophistiqué autour de cette histoire de Saartje Bartman, dans lequel je ne vais pas rentrer. En fait, Kobena Mercer, il ne fait pas directement référence, mais son texte peut être vu comme une intervention indirecte dans ce débat-là, parce que notamment quelque chose qui va diviser la critique féministe africaine-américaine, c'est la question de la construction d'images sexuellement positives de la sexualité des femmes, des femmes noires. Et ce qui est pointé du doigt dans ces débats, c'est qu'un risque d'opposer les bonnes images et les mauvaises images, c'est d'accuser en fait certaines femmes noires de donner une mauvaise image du groupe social dans lequel elles ont été catégorisées ou dont elles se revendiquent, et en fait de participer à un contrôle social. Et ce que propose de Kobena Mercer, c'est justement une réflexion sur la politique de la représentation du sexe et de la race qui dépasse cette question des bonnes et des mauvaises images, qui pense la politique des images d'une manière différente. En fait, ce qui intéresse Kobena Mercer dans les photos de nu masculin noir de Robert Mapplethorpe, c'est l'ambivalence du stéréotype racial. Alors, le stéréotype racial, il est particulièrement évident dans Men in a Polyester Suit de 1980, donc qui joue sur le. Enfin, qui met en avant un pénis noir, entouré d'un. Donc un costume en polyester, et qui joue donc sur une série d'oppositions, pénis-costume, que Kobena Mercer nous invite à associer aux oppositions issues de l'histoire coloniale entre nature et culture, et sauvage et civilisé. Mercer va nous rappeler que le pénis, historiquement, enfin le pénis noir, est historiquement un point de fixation des désirs et des angoisses coloniales. Il rappelle notamment que les clients blancs, enfin les patients blancs du psychiatre antillais Frantz Fanon parlait beaucoup des pénis noirs et que voilà, ça les préoccupait beaucoup, et qu'il y avait notamment une angoisse de la supériorité sexuelle de l'homme noir sur son maître blanc, qui est à la fois une menace perçue par les hommes blancs comme étant une menace sur les femmes blanches, mais plus généralement pour la civilisation tout entière. Le pénis noir menace la civilisation occidentale tout entière. Et donc, ce qui intéresse Kobena Mercer, c'est le mélange de négrophilie et de négrophobie, c'est-à-dire d'attirance et de répulsion qu'il y a dans le regard blanc. Et il va s'appeler ça le clivage de la subjectivité blanche, c'est-à-dire la manière dont l'attirance et la répulsion sont deux forces qui coexistent dans le regard blanc. Donc, Ce stéréotype, il va en faire deux lectures. Une première en 86, et qui est en fait un moment donc où Robert Mapplethorpe est toujours vivant et expose toujours, qui est une qui prend le ton de la dénonciation en fait, et qui va insister sur la manière dont le stéréotype racial tel que l'utilise Mapplethorpe fige et enferme les hommes noirs dans une vision coloniale imposée par un regard blanc. Alors c'est une fixation qui est à la fois technique par l'œil ou par l'objectif de la caméra, et c'est une fixation idéologique. Kobeda Mercer cite Omi Baba sur le fait que le discours colonial opère par fixation des corps décolonisés. Alors, les différents éléments que Kobeda Mercer critique dans ses photos, c'est tout d'abord l'isolement des hommes noirs qui ne sont jamais représentés ensemble, mais qui sont toujours isolés les uns des autres. D'ailleurs, c'est une des raisons, c'est une des différences en tout cas avec les photographies de Rotimi Fadi Keyode, donc de cet artiste, de ce photographe gay noir, qui propose plusieurs hommes noirs dans une même photo. Il a aussi insisté sur la fragmentation et sur le cadrage, sur le pénis, le bras, le muscle, les fesses, le torse, qui vont être fragmentés et représentés de manière isolée, en étant spécifiquement investis sexuellement. Il va aussi insister sur l'occultation du processus de production de ces images, c'est-à-dire que Robert Mapplethorpe nous dit peu de choses. En fait, il nous dit quelques éléments sur lesquels Mercer revient dans la deuxième lecture du texte, mais au début il nous dit peu de choses sur le type de relation qu'il a nouée avec ses hommes noirs, et que notamment il raconte peu de choses sur l'asymétrie dans la relation de travail entre l'artiste prestigieux, très reconnu, blanc, et les modèles noirs qui apparaissent comme étant interchangeables, comme étant une force de travail dont on peut se séparer assez facilement, enfin, comme faisant en fait, du travail abstrait au sens de Marx. Il insiste aussi sur le travail de l'éclairage, hein, notamment sur le rendu brillant de la peau noire, qui est rendu par Mapplethorpe et qui va faire écho au rendu brillant de la photographie, notamment au rendu brillant de la photographie de mode. Hein, donc la texture de la peau va rappeler la texture du magazine de mode. Et donc il va insister sur la fétichisation de la chair noire. Alors, donc ça c'est un premier moment où Kobeda Mercer va parler d'un stéréotype qui fige. Mais le moment, il y a un deuxième moment qui est probablement le moment le plus, qui est la contribution en tout cas la plus originale de Kobeda Mercer à l'analyse des stéréotypes pornographiques en général et des stéréotypes raciaux en particulier. Qui est quand il va s'interroger non plus à la fonction régulatrice du stéréotype, mais à la fonction déstabilisatrice, choquante, de ce stéréotype. Alors, pour analyser les stéréotypes noirs, Kobeda Mercer, il va utiliser la théorie du regard masculin de Laura Mulvey. Et il va faire une analogie entre sexe et race, et il va comprendre la fétichisation du corps noir par le regard blanc de la même manière que Laura Mulvey avait pensé la fétichisation du corps féminin par le regard masculin. Alors, le problème, et Kobeda Mercer s'en rend compte au milieu de son analyse, c'est que quand on fait ça, on s'empêche de penser les intersections justement entre le genre et la race, et on s'empêche de penser que c'est aussi une relation de travail entre deux hommes qui évoluent dans les subcultures gays new-yorkaises des années 80, et on rate aussi la sensibilité gay qui travaille le texte, qui travaille le travail, qui traverse le travail de Robert Mapplethorpe. Alors, ce sur quoi il va insister dans cette deuxième lecture, c'est qu'en fait, cette sensibilité gay, elle va être mise au profit d'un travail de sape du canon occidental, masculin, du nu artistique féminin. En fait, en reprenant des codes du nu artistique occidental, en les faisant incarner par des hommes noirs et en y intégrant des clins d'œil gays ou des clins d'œil porno. Mabel Thorpe se lance, nous dit Mercer, dans une stratégie de promiscuité intertextuelle, dans un usage tactique de l'homoérotisme comme stratégie de perversion artistique. Les photos de Mabel Thorpe vont être un point de rencontre entre la vulgarité du stéréotype racial et du stéréotype porno et l'élévation artistique entre les codes de la culture. Mais il fallait me le dire, hein, je suis désolé de vous avoir fait souffrir pendant une heure. Oui, d'accord. Alors, je vais essayer comme ça. Et donc, à travers cette intervention dans ces oppositions, Robert Mapplethorpe va aussi souligner la dimension racialisée des hiérarchies culturelles. Donc autant de raisons pour lesquelles le travail de Mapplethorpe devient d'un coup plus intéressant. Alors, une manière de comprendre cet intérêt, c'est en mettant ces deux images côte à côte. Dans la rhétorique pornographique, coloniale et postcoloniale, ce qui est central, c'est l'enregistrement des vérités du sexe décolonisé, notamment du sexe noir, sans censure ni trucage, hein, d'enregistrer la différence raciale. Et cette rhétorique porno, elle se retrouve dans un certain humour gay qui. Il y a des échos étranges avec les micros. Dans un certain humour gay qu'on peut voir porter par cette carte art postale, donc une carte postale dépliante, ou qui commence par le premier élément en haut, où tout d'abord on nous explique que tout ce qu'on avait entendu sur les hommes noirs est vrai, et finalement donc on arrive à le lieu de la vérité, qui est donc le pénis imposant, qui confirme donc cette vérité. Alors, voilà ce que dit Mapplethorpe à propos de cette carte postale, et qui est en fait un moyen de regarder différemment les photos de Mapplethorpe. Dans la mesure où cette carte de vœux n'a pas d'auteur, il apparaît tout à fait secondaire de lui attribuer des intentions racistes ou antiracistes. Autrement, on ne sait pas si c'est une personne blanche ou une personne non blanche qui a produit cette carte postale. Il semble en revanche important de considérer le contexte dans lequel cette carte circule et est échangée. En l'occurrence, le milieu culturel gay métropolitain. Ce que je veux dire, c'est simplement que les lecteurs gays de cette communauté sémiotique vernaculaire, ainsi que quiconque doté des compétences relatives à la lecture de ces codes spécifiques, ont en commun un ensemble de références intertextuelles, ignorées d'autres lecteurs et lectrices, et qui leur donnent un accès particulier à l'œuvre de Mapplethorpe. Donc, selon cette seconde lecture, le travail photographique de Mapplethorpe est saturé de ces clins d'œil. Un de ces clins d'œil, d'ailleurs, c'est que plusieurs des modèles de Mapplethorpe sont aussi des acteurs porno-gays. Donc une personne qui a à la fois une culture artistique et une culture porno-gay pourrait identifier ces circulations des mêmes acteurs, des mêmes modèles entre ces différents univers. Cette seconde lecture, elle va permettre à Cobain et Mercer de penser l'effet de choc des stéréotypes pornographiques, des stéréotypes raciaux dans le porno. En fait, plutôt que figer, ce qui peut être intéressant pour un usage stratégique du stéréotype, c'est leur pouvoir de trouble et de déstabilisation. L'effet de choc, il ne permet pas une position de sujet stable et centré. Il va plonger les publics dans un trouble émotionnel qui va déstabiliser leur assurance identitaire. Alors ce trouble, Cobain et Mercer dans une dernière partie du texte, il appelle à lecteurs différents, lectures différentes. Il invite à le penser pour l'ensemble des publics, hein, aux différentes intersections des différents rapports sociaux qui sont condensés dans les photographies de Mapplethorpe. Mais il distingue notamment deux publics. D'une part, Jesse Helms et Hinton Honne Kramer, qui sont deux républicains qui ont exprimé publiquement tout leur dégoût pour les photographies de nus, et notamment de nus noirs masculins, de Robert Mapplethorpe. Et donc, dans ce dégoût, il y a aussi, en même temps qu'une affirmation, où il n'y a pas seulement une affirmation, il y a aussi sans doute une déstabilisation de la masculinité hétérosexuelle blanche conservatrice de Jesse Helms, qui ne parviennent pas à s'emparer de ces images, qui sont troublés, choqués, qui sont dérangés par ces images, et qui ne parviennent pas à être des hommes hétérosexuels blancs, en fait, quand ils manipulent ces images. Ensuite, Mercer revient sur son propre trouble, et il va notamment parler d'envie et de colère. Alors, il va d'abord parler de la colère qui était très présente dans la première lecture, c'est tout simplement la colère d'être enfermé dans une catégorie raciale ou dans un stéréotype racial par un artiste blanc. Mais il va dire que ça se mêlait aussi avec une sorte de rivalité avec Mapplethorpe, parce que lui aussi, en tant qu'homme gay noir, il avait envie d'accéder à ces beaux corps qui l'avaient ému, dont la puissance sexuelle l'avait ému, et il y avait une sorte de rivalité ou de jalousie qui s'était instaurée. Et donc il y avait une identification en fait simultanée à l'objet et au sujet du regard, où il n'y avait pas de stabilité ou de division vraiment entre le sujet et l'objet du regard. Et il revient du coup sur ce qu'il appelle l'agressivité de l'analyse textuelle qu'il avait déployée dans un premier temps, une sorte de bulldozer critique postcolonial pour désinguer Mapplethorpe, en reconnaissant dans un second temps aussi, une fois que le moment de controverse avec Mapplethorpe était probablement passé, vu que Mapplethorpe était décédé, sur les sentiments mitigés qu'il avait éprouvés ou l'ambivalence émotionnelle qu'il avait traversée. Alors, cette ambivalence émotionnelle pour Comeda Mercer, c'est pas quelque chose qui se situe dans l'image elle-même, mais c'est quelque chose qui se situe dans la connexion entre différents corps et cette image. Oui ? Ok, bah super. J'arrive à la conclusion. Le timing est parfait. Si on l'avait préparé à l'avance, ce serait aussi bien passé. Donc avec ce dernier point, je voudrais en venir à ce qui me semble en fait un apport des Pan Studies pour la réflexion féministe et antiraciste sur les images, qui est en fait la place des affects dans le travail critique. Alors par affect, hein, j'entends les intensités sensorielles qui traversent le corps du public dans son rapport à l'image. Alors ça peut être le public ordinaire, un public ordinaire du porno, le public ordinaire des expositions Mapplethorpe, ou le public spécialiste dont le travail est précisément de travailler sur ces images. Alors, les Pan Studies, elles se développent dans les années 80, dans le moment où il y a la formulation d'un projet donc féministe antiraciste au sein des Cultural Studies, d'une politique des représentations, c'est-à-dire de réfléchir à la part culturelle du combat politique, à cette partie du combat politique qui se joue dans les imaginaires. Et la contribution des Pan Studies, ça va être de penser la dimension, on va dire, charnelle ou viscérale de la lutte culturelle, hein, qui est toujours un moment d'une lutte politique plus large. Et notamment avec une réflexion sur la place des émotions, donc ce soit le plaisir, la colère, le dégoût, l'ennui aussi, différentes intensités, et de réfléchir à leur place dans la production de connaissances critiques. En insistant sur le fait que la signification des images, elle n'existe pas indépendamment en fait, des pratiques matérielles, des pratiques corporelles, à travers lesquelles les publics en font sens. Autrement dit, le « qu'est-ce que ça veut dire » du porno comme des autres représentations sexuelles, on ne peut pas répondre à cette question sans répondre à la question du « comment ça marche », c'est-à-dire du type de rapport matériel, charnel, qui s'instaure entre les publics et les images. Alors, ça, c'est une intervention importante parce que le statut du plaisir était assez différent avant les pansodises pour l'étude des représentations, on va dire, sexistes et racistes. Il y avait une idée qui prédominait, qui était que l'expérience du plaisir dans l'analyse d'images idéologiquement problématiques, c'était quelque chose qui pouvait désarmer la critique. C'est-à-dire que faire l'expérience du plaisir, toujours selon ce régime de la vérité, ça pouvait dire que finalement on était... Enfin, le plaisir était un lieu de vérité dans ce rapport à l'image, et que finalement la critique c'était des salades qu'on racontait, mais qu'il y avait une sorte de danger de ressentir du plaisir face à des images sexistes et racistes, et bien un danger différent en fonction de sa position dans les rapports sociaux. Mais c'est en tout cas une expérience dangereuse, et une phrase assez célèbre de Laura Mulvey, c'est la destruction du plaisir comme arme politique radicale. Alors, ce que les pansodises vont apporter, c'est une réflexion sur le plaisir ambivalent, hein, comme celui que partage avec nous Cobodin Mercer à la fin de son texte, sur le plaisir ambivalent que suscitent chez nous les images politiquement incorrectes. Hein, et le porno est peuplé d'images politiquement incorrectes, hein, c'est même un des ressorts principaux du porno. Et donc, à la place des sentiments mitigés, des sentiments mitigés, on va dire, où différentes intensités se mêlent, hein, le plaisir, le dégoût, la honte, et d'avoir une réflexivité là-dessus et les intégrer à la critique des images. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et donc on a une demi-heure, je crois, pour... Ah non. Ah, une dizaine de minutes pour échanger.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Vous avez sûrement entendu parler des événements au Collège Montaigne il y a peu. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que ce serait utile d'avoir une éducation pornographique à l'instar d'éducation sexuelle ? C'est pas du tout utile ou nécessaire selon vous ?
Alors, donc pour la question donc, de l'éducation sexuelle, en fait, je dirais que d'une certaine manière, il y a plusieurs manières d'y répondre. Il y a une première manière de répondre que le porno, en fait, est en soi une forme d'éducation sexuelle, et par exemple, c'est la principale forme d'éducation sexuelle au code de la sexualité gay, par exemple, ou à différentes sexualités minoritaires. Il y a une autre manière de voir la question qui est de voir l'école comme lieu d'éducation sexuelle, comme un lieu qui est plutôt historiquement un lieu de contrôle des corps et de normalisation des corps, et donc il y a peu de chances que quelque chose d'intéressant en fait émerge en termes d'éducation sexuelle de l'école, où c'est pas, enfin, en tout cas je pense qu'il faut pas valoriser a priori l'école comme lieu d'éducation sexuelle qui serait plus progressiste que la pornographie, hein. Je pense que il y a des problèmes différents, on va dire. Après, ce qui était très justement dit par une journaliste, j'ai oublié le nom et j'ai même oublié le titre pour lequel elle travaille, mais c'est un article qui avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'on parlait beaucoup dans le traitement de ce fait. On exceptionnalisait en fait une situation qui serait due à la massification des smartphones. Et en fait, on ne parlait pas d'un problème plus général qui est le rapport des garçons ou des hommes en général à la culture du viol. Donc là, c'était un cas typique où la pornographie est une sorte de bouc émissaire qui permet de ne pas poser la question qui dérange vraiment, c'est-à-dire la question en fait, du viol. Enfin, qui n'est pas réductible à la question de la pornographie, en fait. Voilà. Même si un certain type de pornographie, on peut estimer que ça participe d'une certaine culture du viol. Mais...
peut-être éduquer le regard face à ces images pornographiques, ouais. Justement, ou je sais pas.
Mais alors, Un problème qu'il y a, par exemple, moi je trouve, dans le discours sur l'éducation à l'image avec la pornographie, c'est qu'on produit une image de bon spectateur, parce qu'en fait c'est un public masculin qu'on vise et qu'on problématise. Dans ce cas-là, on a plus souvent en fait des jeunes garçons que des jeunes filles, quand on se pose cette question-là. Et en fait, il y a ce bon spectateur, donc ce gentil garçon, enfin qui est présupposé hétérosexuel aussi, qui devrait en fait bien distinguer le fantasme et la réalité. Et en fait, il y a cette idée que la pornographie, c'est un monde du fantasme, et par contre, la réalité, on sait ce que c'est. Et du coup, en fait, on va apprendre une certaine forme de réalité sexuelle à ce public jeune. Et je pense qu'il faut aussi interroger les normes on va dire, des pratiques d'éducation à l'image, qui souvent, en pointant du doigt les normes de la pornographie, ne réfléchissent pas en fait au propre modèle de sexualité qu'elles imposent. Et ne prennent pas en compte que, par exemple, pour certaines sexualités minoritaires, cette opposition entre le fantasme et la réalité ne fonctionne pas du tout de la même manière, et que c'est quelque chose d'assez hétérosexuel, en fait, la question de l'opposition entre fantasme et réalité telle qu'elle est posée dans ces pratiques d'éducation à l'image.
Merci pour cette conférence. Je voulais juste demander, parce que peut-être ce dont vous n'avez pas parlé et qui, moi, me rend peut-être plus curieuse, c'est la réception des porn studies en France. Alors, est-ce que, avant votre livre, que moi j'ai trouvé dans la librairie à côté de chez moi, donc j'étais très contente parce que j'ai vu ça avant de savoir qu'il y avait la conférence, donc j'étais contente de savoir que le livre était vraiment assez bien distribué. Mais est-ce qu'il y a une discipline qui est en train de se former et on sait en plus comment Foucault on pourrait imaginer peut-être comme étant un parrain de tout ça, a quand même publié ses écrits en France en séparant finalement sa vie personnelle qu'on connaissait, ses pratiques, en n'en parlant pas tellement dans les écrits qui étaient publiés, en tout cas de son vivant en français, je crois, hein, et alors qu'il était plus libre, il me semble, dans les conférences qu'il faisait aux États-Unis, etc. Donc comment on arrive avec les porn studies en France de votre point de vue, et comment ça se construit, etc.
Alors un enjeu pour moi qui est important, c'est justement d'insister sur le fait que c'est pas une discipline, les porn studies, mais que c'est un espace critique interdisciplinaire qui se construit contre les disciplines. Souvent, on tourne en dérision les porn studies comme l'ensemble des studies, enfin, de la constellation des cultural studies, en isolant leur objet privilégié, en disant mais c'est ridicule, il y a des chercheurs qui se mettent autour pour se spécialiser dans la pornographie. Et ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est que dans les porn studies comme dans les autres studies, c'est moins l'objet qui compte que la démarche. Par exemple, les Black Queer Studies, c'est pas des études sur les gays et les lesbiennes noires. C'est un projet critique qui est plus large. Donc je pense qu'il faut pas se concentrer sur l'objet. Et ce ne sont pas non plus des disciplines au sens où le système universitaire britannique et états-unien est différent du système français. Et donc, de toute manière, les porn studies ne seront jamais une discipline en France. Je pense que c'est juste un des courants de recherche qui propose une réflexion critique, notamment depuis le féminisme ou depuis la théorie queer, sur les angles morts des disciplines. Donc je pense que les porn studies, il faut mieux les voir comme un espace critique interdisciplinaire qui ouvre des espaces que les disciplines concernées, donc la sociologie, l'histoire de l'art, l'anthropologie, ont fermé jusque-là. Après, il y a déjà toute une traduction culturelle qui est en marche des porn studies. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont ici, qui font des porn studies. Je ne sais pas tous et toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Il y a toute une traduction. Enfin, ça, c'est, on va dire que c'est la traduction formelle, mais la traduction culturelle existe déjà et est déjà portée par beaucoup de chercheurs et beaucoup de chercheuses. Tout à fait.
Question.
C'est en fait un rebondissement sur la question précédente, mais c'est vrai que t'as cité des textes qui ont été écrits dans les années 80, et en fait, je pense que l'ouvrage que t'as présenté est quand même un des premiers qui se présente comme une anthologie des porn studies. Il y a une introduction des porn studies en France, donc il y a clairement un retard de 30 ans minimum, quoi, qui est un retard qu'on observe d'une manière générale dans les transferts des cultural studies, gender, féministe et queer studies en France. Donc je trouverais ça intéressant de réfléchir aussi à ça, quoi, à ce retard-là. Est-ce qu'il est aussi vrai pour les porn studies qu'il est pour les autres champs d'études minoritaires qui sont importés des études anglophones, d'une part, et de quoi ça parle, enfin, qu'est-ce que ça dit du savoir français?
Oui, bah, c'est vrai qu'il pourrait y avoir... Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que de voir ces textes traduits... en 2010, alors qu'ils ont été écrits dans les années 80, ça donne la sensation d'être un peu à la ramasse et de pas être vraiment dans le coup par rapport à qu'en fait l'université française est un peu une université d'un empire colonial décadent qui se pense au centre des échanges intellectuels, mais en fait complètement en marge de ces échanges et voilà, et à la ramasse par rapport au débat intellectuel. En fait, c'est une manière de voir les choses et qui est voilà, que l'arrogance française en fait produit un isolement, mais peut-être aussi une autre manière, peut-être plus optimiste, c'est que en fait de traduire ces textes et de les remettre en circulation dans un contexte intellectuel politique différent, ça crée aussi un nouvel événement et qu'en fait ça produit des choses différentes que ce qui avait été produit dans les années 80, et donc peut-être pas tomber non plus dans une histoire linéaire du progrès où la France serait condamnée à avoir 30 ans de retard sur les États-Unis, mais peut-être de voir comment ça intervient dans une autre temporalité, qui est la temporalité des débats francophones, où du coup il y a d'autres débats. Alors, un des nombreux débats, par exemple, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que le féminisme matérialiste, par exemple. Et voilà, donc peut-être que ça participera de ce débat-là, où il y a différents débats, j'espère, auxquels ces textes, dans lesquels ces textes pourront intervenir, qui ne sont pas du tout les débats dans lesquels s'inscrivaient initialement Faco Benhamer-Sœur et Linda Williams.
Ouais, on va clore, donc, merci.
Merci beaucoup pour votre écoute.